Chapitre 10e. Entretien d'un poète et d'un philosophe déguenillé qui pêchait des truites. Le poète, sorti de la ville, suivit le cours du Xénil, perdu dans ses souvenirs d'amour et dans ses réflexions. Comme il marchait lentement, la tête baissée, les yeux fixés à terre, il donna du nez contre un homme qui remontait le long de la rivière. « Maladroit !» dit Rimbaud. L'autre s'excusa. C'était un pauvre diable qui portait un filet de pêche et qui guettait les truites au passage. Ses habits avaient plus de trous que son filet, et sa figure, marquée de la petite vérole, était assez semblable à une vieille écumoire. Du reste, bonhomme, et disposé à causer de la pluie, du beau temps et des affaires publiques. « Que cherchez-vous là ? » dit le Gascon. « Des truites, » répondit l'autre. « Et vous ? » ?»«
Moi ? » ?»«
Des rimes. Vous êtes poète ? » ?»«
Oui, seigneur cavalier. »
« Je suis poète, musicien et philosophe, et de plus, fort à votre service. »«
Ah !» dit le pêcheur, « cela ne vous engage pas à grand-chose. La poésie m'ennuie, et la philosophie m'assomme. »«
Diable !»«
Seigneur cavalier, » dit Rimbaud, « vous n'êtes pas facile à contenter. »«
Bois !» dit le pêcheur, « qu'est-ce qu'il me faut ? » ?»«
5 ou 6 truites, tout au plus. Quand je les ai, je vais les vendre au marché. J'achète un oignon, une bouteille de Balpenas, et je n'en vis pas le sort des dieux. »
« Vous n'avez pas de femme ?» dit le Gascon.
« Pourquoi faire ?»«
Je ne sais, » dit le Gascon. « Pour vendre vos truites, peut-être. »«
À quoi bon ? Je les vends bien moi-même. »«
Et entre nous, la meilleure des femmes ne vaut pas la plus mauvaise des truites. »«
Seigneur cavalier, savez-vous que je suis français ?
Ça m'est égal. »«
Et que, dans mon pays, on ne souffre pas volontiers un manque de respect aux dames. »«
Parbleu, » dit le grenadin.
« Souffrez ou ne souffrez pas, je m'en moque comme du prince Ferragus et du roi Marsil. »
« Ce blasphème, » répliqua Rimbaud, « ne restera pas impuni. Prends un bâton, je vais en prendre un autre, et nous nous battrons pour l'honneur des dames. »«
Comme il vous plaira, » répartit le grenadin, « mais je vous avertis que mon bras est pesant et que mes os sont plus durs que le granit. »
Le Gascon n'en voulut pas démordre. Il fallut se battre. Les deux adversaires coupèrent chacun une branche de chêne, solide et noueuse, et le combat commença. Le poète ne tarda pas à reconnaître que le grenadin n'avait pas exagéré la pesanteur de son bras. Après un quart d'heure de lutte, il jeta son bâton à terre et dit « Causons ». Le grenadin suivit son exemple.
« Or ça, » dit Rimbaud, « tu es un brave homme, et je voudrais causer avec toi à cœur ouvert. Que disais-tu tantôt de Ferragus et du roi Marsil ?»
« Allons-nous parler politique ?» reprit le grenadin. « Ma foi, j'aime autant reprendre mon bâton. »«
Je hais la politique, » dit Rimbaud.
« Moi aussi, » dit le grenadin. « J'ai dit que je me moquais de Ferragus comme de toi, et de toi comme de Ferragus. Est-ce clair ?»«
Trop clair pour Ferragus et pour moi, » dit Rimbaud en riant. « Et que me reproches-tu à moi ?»«
D'être un bavard et un questionneur, deux espèces d'ennuyeux. »«
Et à Ferragus ?»
De faire hausser le prix des truites.
Qu'importe, tu ne les achètes pas, tu les vends.
Il importe beaucoup. Ferragus donne de si grands festins, et le métier de pêcheur est devenu si lucratif que tout le monde s'en mêle, de sorte qu'il ne vaut plus rien.
Est-ce que tu ne plains pas un peu le malheur de Doralice ?
Quelle Doralice ? La fille de Stourdilan, le dernier roi de Grenade.
Pourquoi la plaindrais-je ?
Parce qu'elle est infortunée.
Infortunée ?
Tous les jours, elle a 30 places sur sa table, dont le plus mauvais vaut mieux que tous mes dîners de l'année.
On ne vit pas seulement de pain et d'oignons.
Oui, je le sais. On vit encore de vin et de viande. Eh bien, n'a-t-elle pas une ration suffisante ?
Oh oh ! Dit Rimbaud. Et s'il n'épouse pas celui qu'elle aime ?
Eh bien, qu'elle aime celui qu'elle épouse. Tous les hommes se ressemblent.
Diable de philosophe ! Dit Rimbaud. On ne peut rien tirer de ta dure cervelle.
Parbleu ! « Quel intérêt veux-tu que je prenne à ces malheurs que je ne comprends pas ?
Est-ce que tous les grenadins sont aussi endurcis que toi ?
Je n'en sais rien, interroge-les. »«
Que leur dirais-tu à ma place ? » demanda Rimbaud, « si tu voulais les exciter à la révolte contre Ferragus. »«
À la révolte, pourquoi faire ?
Pour délivrer leur patrie et la princesse Doralice. »
Le grenadin se mit à rire.
« Décidément, tu es un peu plus poète, c'est-à-dire un peu plus insensé que je ne croyais. »
« Laisse-moi mes truites !»
Et il fit mine de s'en aller, mais le Gascon le prit par le bras et l'arrêta.
« Mon cher ami, tu ne partiras pas avant d'avoir expliqué ta pensée. »«
Ma pensée, mon cher ami, » répliqua le grenadin, « c'est qu'il est déjà fort tard, que l'heure du marché est passée et que je n'ai pas vendu mes truites. « Qu'à cela ne tienne, » dit Rimbaud, « je te les achète et je t'invite à déjeuner. »« Oh oh, tu es donc un puissant et généreux seigneur. » »« Généreux, oui, puissant, non, mais j'ai des amis partout et ma bourse n'est jamais vide, ni mon bissac. Que dis-tu de ceci ?» Il tira de son sac un lièvre rôti, du pain et deux bouteilles de Benny Carlo. Cette vue fit sourire le pêcheur qui se hâta d'allumer du feu avec des broussailles sèches. Les deux compagnons firent griller les truites et commencèrent à boire et à manger de bon appétit. La conversation ne tarda pas à s'échauffer et le Benny Carlo cimenta tellement l'amitié des deux convives qu'ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. « Mon ami, » dit Rimbaud, « tu me parais homme sage et de bons conseils. N'as-tu jamais eu d'ambition ?»«
Moi ?» répliqua le grenadin. « Pourquoi faire ?»«
L'ambition est le vice des gens qui n'ont plus d'appétit. Quand je cesserai d'aimer les oignons et le bal de penasse, je penserai à devenir roi de Grenade. Mais jusqu'ici, grâce au ciel, l'estomac est bon. D'ailleurs, à parler franchement, j'aime à vivre tranquille. Si j'étais roi demain, après-demain je ferais des jaloux, et le troisième jour on voudrait me couper la gorge. » « Vois ce qui est arrivé au pauvre Stordilan. »«
Bon, » dit Rimbaud, « aussi ne pensais-je pas te faire roi. Mais que dis-tu d'une ambition plus noble, celle d'acquérir de la gloire, par exemple ?»«
La gloire ?» répliqua l'autre. « Que veux-tu qu'en fasse un pêcheur de truite ?»«
Quoi ? N'as-tu jamais eu de passion dans le cœur ?»«
J'aimais une de mes voisines qui était belle et blonde comme Fatma, la fille du prophète. Malheureusement, elle était assise un soir sur un banc et chantait une romance. Un chevalier passa qui cherchait aventure. Il lui jeta son colis d'or autour du cou et l'emmena. Depuis ce temps, je n'ai plus aimé que les truites.
Et tu n'as plus entendu parler de ta bien-aimée ?
Elle est revenue à Grenade, 3 ans après, maigre, épuisée, mourante. Elle me demanda du pain, que je n'osais pas lui refuser, pour ne pas désobéir au prophète qui recommande la charité. Mais je ne pensais pas plus à elle qu'au chien qui erre dans les rues.
Est-elle morte ?
Oui. Comprends-tu maintenant pourquoi je n'ai pas grand souci des malheurs de la princesse d'Oralis ?
Bah, dit Rimbaud, ta seconde maîtresse t'aurait consolé du départ de la première. Comment t'appelles-tu ?
Ali. Eh bien, mon cher Ali, je n'ai jamais vu de philosophe de ta force.
Il faut que tu aies fermé les yeux dès ta naissance, répliqua le grenadin, car j'en connais plus de 100 000 dans la seule ville de Grenade, qui ne se soucient de rien, sinon de vivre au soleil, de manger les oignons et de boire du val de penasse.
À quoi passent-ils leur vie ?
À penser.
Et ils ne travaillent pas ? Le travail n'est pas le but de la vie, c'est le moyen.
Quel est le but ?
Je l'ignore. Expier, je suppose, en cette vie les fautes que nous avons commises dans quelque autre planète ? C'est à quoi servent merveilleusement Ferragus et tous ces pareils ?
« Voilà qui est bien séditieux, » dit Rimbaud en se frottant les mains.
« Tu n'aimes donc pas Ferragus ?
Pas plus que Stordilan. »«
Tu n'aimes pas Stordilan ?
Pas le moins du monde. »«
C'était un si bon roi. »«
Pouh !
Si vénérable. »«
Pouh !
Si aimé de ses sujets. Qui sait ?
Qu'avais-tu à lui reprocher ?
Moi, rien, sinon qu'il était mon maître. Un sage l'a dit, notre ennemi, c'est notre maître. »«
Eh bien, » dit le Gascon, « si tu n'aimes pas Ferragus,
ni Stordilan.
Qui t'empêche de prendre les armes pour l'infortuné d'Oralis ?»«
Peu de choses, » dit Ali, « la crainte d'être pendu ou empalé. »«
Ferragus est donc bien terrible ?»«
Lui ? Je m'en soucie comme d'un fétu de paille. »«
Mais que me reviendra-t-il d'avoir risqué ma vie dans cette aventure ?»«
Le plaisir de voir une révolution, » répliqua Rimbaud.
« N'est-ce donc rien pour un homme aussi ennuyé que toi ?»
Par les moustaches du prophète, dit le pêcheur. Voilà une raison raisonnable et qui me plaît. Décidément, je suis ton homme. Que faut-il faire ?
Il faut, dit Rimbaud, aller dans la place publique avec une trompette et crier que le contrôlant arrive avec 500 000 hommes pour venger le vieux Stordilan, délivrer sa fille et couper la gorge à l'usurpateur Ferragus.
Tu connais le contrôlant ?
C'est mon maître.
Tu es un maître ?
Oh ! Dit le Gascon en riant. Il est le bras, je suis la tête. Entre nous, c'est un héros qui se fera rompre les os à la première occasion, car je n'en connais pas de plus extravagant.
Si les héros avaient du bon sens, dit Ali, ils ressembleraient à tout le monde.
Eh bien, c'est convenu. Quel jour ton héros va-t-il faire son entrée dans Grenade ?
Aujourd'hui même.
Peste, c'est un homme pressé.
Je n'ai que le temps d'aller chercher ma trompette. Où sont ces 500 000 hommes ?
Sur le papier, il est venu seul.
Voilà un héros qui me plaît.
Au revoir, cher poète.
Les deux amis se séparèrent, et Rimbaud alla retrouver Roland. Le comte d'Angers venait de revêtir son armure et de mettre son olifant en sautoir sur sa poitrine. Ses yeux étincelaient d'une joie guerrière. Dans un coin de la tente, Corisande, les yeux levés au ciel, implorait la protection de Mahomet. Enfin, on amena Bride d'or. Roland allait mettre le pied à l'étrier quand Rimbaud parut.
« Eh bien, dit le comte d'Angers, quelle nouvelle !
Ferragus est dans Grenade avec 20 000 chevaliers sarrasins, les plus braves de l'univers.
Tant mieux.
Et Doralis ? Elle pleure, elle crie, elle espère en vous et se donnera la mort si vous ne la tirez des mains de Ferragus.
Tu l'as donc vue ? Demanda Corisande.
Oui, madame, et j'ai retrouvé Églantine.
La perfide Églantine ?
L'adorée Églantine, celle que j'ai toujours aimée, celle qui ne m'a jamais trahi, celle qui m'aime et pour qui je veux donner ma vie.
Ah, maître Rimbaud, en une nuit, vous avez fait bien des découvertes.
Ce n'est pas tout, madame. J'ai préparé une révolution dans Grenade.
Une révolution, toi ?
Oui, madame, moi et un pêcheur de truites, ou, si vous voulez, un pêcheur de truites et moi.
Sais-tu bien, dit Roland, que je n'aime pas les mauvais plaisants ?
Ni moi les gens qui se mettent trop vite en colère, répliqua Rimbaud.
En même temps, il raconta ses aventures et sa conversation avec le pêcheur. La princesse de Grenade et le comte d'Angers éclatèrent de rire.
Alice s'est moquée de toi, dit Corisande.
On ne se moque jamais d'un Gascon, répliqua Rimbaud.
Ali est un philosophe qui n'a pas d'occupation et qui s'ennuie.
Il n'y a rien de plus révolutionnaire que ces gens-là.
Roland haussa les épaules. Un pêcheur de truites, dit-il avec mépris.
Eh bien, seigneur chevalier, vous verrez avant peu ce que valent un pêcheur de truites et un faiseur de chansons.
Roland prit congé de Corisande et lui baisa la main. La belle princesse de Grenade le regarda s'éloigner, monter sur Bride d'or, et rentra dans sa tente pour donner un libre cours à ses inquiétudes et à ses larmes. Quant à Rimbaud, confiant dans les promesses d'Ali, il suivit de loin le comte d'Angers avec l'espérance d'assister à une révolution, ce qui est en tout temps un régal de poète et de philosophe.